Le problème, c'est que si on se place d'un point de vue séculariste, effectivement, on a l'impression qu'en dépit de toute cette multitude de mouvements, les acteurs sécularistes demeurent minoritaires et que les acteurs sécularistes et les formations politiques sécularistes ont très peu d'ancrage dans la vie sociale. C'est-à-dire que les partis qui ont vraiment un ancrage dans la vie sociale, ce sont les Frères musulmans d'une part, mais parce qu'ils donnent des services, rendent des services concrètement aux gens, services matériels. Et ce sont les anciens membres du PND, le Parti national démocrate de Moubarak. Donc ça, c'est vraiment, ça reste les deux forces politiques les plus importantes. Donc ensuite, ce qu'il faut voir, c'est comment ces militantismes sécularistes et les militantismes islamiques vont arriver peut-être à s'entendre sur certains points et à mettre en place un État qui sera un État de droit, mais qui ne sera pas l'État de droit tel qu'on le connaît en Europe. Ça, c'est certain, puisqu'il faudra de toute façon tenir compte des exigences religieuses et éthiques, puisque c'est souvent ces exigences religieuses seront reformulées en termes éthiques ou en termes de mœurs. Les Frères musulmans, par exemple, on ne peut pas imaginer qu'ils vont remettre en question les accords de Camp David, mais par contre, on peut imaginer qu'ils vont sans doute formuler des exigences sur les rapports hommes-femmes, sur telle et telle chose qui concerne les mœurs. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que bon, sur ces 80 millions d'habitants, ceux qui ne sont pas encore vraiment rentrés dans le mouvement révolutionnaire, c'est les plus pauvres. C'est les plus pauvres et c'est une masse écrasante. Le gros risque, surtout, c'est la question sociale. C'est le fait qu'il y a une part énorme de la population qui vit dans des conditions de misère atroces et qu'il y a une situation économique bon, qui est difficile au niveau mondial. Mais en Égypte, c'est encore pire que dans pas mal d'autres endroits et que le pays ne tourne pas depuis un an maintenant.
Vous avez souvent dit que les minorités se complaisaient dans leur statut justement de minorité, notamment en parlant des Coptes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là?
On peut prendre un problème très concret, c'est qu'en Égypte, par exemple, on a une division en ce qui concerne le statut personnel. C'est qu'il y a un droit qui est valable pour tous les citoyens égyptiens, mais il y a par contre un statut personnel, donc tout ce qui concerne les affaires de mariage, de divorce, notamment. Tout ça, c'est réglé en fonction de la loi religieuse, donc soit musulmane, soit chrétienne. C'est pour ça que, comme on l'avait fait remarquer pendant l'intervention, même ceux qui ne sont pas croyants sont finalement définis et recensés, inscrits comme chrétiens, et la religion chrétienne est inscrite sur les papiers d'identité. Donc l'Église est une des premières qui s'oppose finalement à une sécularisation du statut personnel, c'est-à-dire à l'établissement d'un statut personnel commun aux musulmans et aux chrétiens, parce que du coup ça ouvre les portes à la conversion, ça ouvre la porte à la fuite des fidèles. Et c'est un problème qui préoccupe l'Église, puisqu'il y a effectivement 5 000 personnes par an à peu près, on n'a pas les chiffres exacts, puisqu'on refuse de les publier, qui se convertissent, qui partent de l'Église.
L'armée est-elle un rempart de protection pour les Coptes?
Beaucoup de personnes se posent cette question. Les dirigeants politiques aussi en Europe se sont à un moment donné posé la question et ont soutenu les régimes militaires justement par crainte de l'arrivée des barbus au pouvoir. Or, ce qu'on a pu voir au cours du dernier mois, c'est que l'armée, qui n'était pourtant pas infiltrée par les Frères musulmans, alors que beaucoup d'institutions sont infiltrées par les Frères musulmans, l'armée, ça demeurait une institution qui n'était pas infiltrée par les Frères musulmans. Et pourtant, comme le communautarisme, c'est pas uniquement une question d'idéologie religieuse, mais de pratiques quotidiennes, de discours, on voit bien qu'ils ont quand même fonctionné selon une logique communautariste et qu'ils ont réprimé très violemment une manifestation copte. Donc d'une part, d'un point de vue idéologique, ça n'est pas un rempart. Et après, d'un point de vue stratégique, ça n'en est pas un non plus, puisque bon, toute force au pouvoir en Égypte va forcément être obligée de jouer avec les frères le même jeu que le régime précédent, de la carotte et du bâton, des alliances et de la répression, parce que tout simplement, ils ne peuvent pas se passer d'eux non plus, parce que les frères musulmans sont capables de mobiliser, ils ont une base énorme, ils peuvent mobiliser, donc un régime ne peut pas se passer des réseaux frères musulmans et ne pourra pas non plus se passer des réseaux des membres du Parti national démocratique, donc des deux forces qui sont ancrées dans la population, qui ont des réseaux de solidarité, des clientèles. Donc l'armée n'est pas un rempart, non.
Les relations entre l'Égypte et Israël vont-elles se dégrader dans le futur, peut-être justement à cause de cette poussée de l'islam en ce moment?
Je veux juste évoquer ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait finalement une hypocrisie terrible sur cette question, puisque à la fois le régime alimenter un discours anti-israélien d'un point de vue culturel notamment. Il était très 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 mal vu et ça faisait toujours des scandales dans la presse si jamais par hasard on entendait dire qu'un écrivain israélien était invité. Donc il y avait une hypocrisie, un veto sur les activités culturelles, les échanges culturels ou universitaires. Tandis que par contre, il y avait des accords économiques énormes et il y a toujours des accords économiques entre l'Égypte et Israël, avec même des, à l'avantage d'Israël. Il y a des accords et des coopérations américaines, israéliennes, égyptiennes dans le domaine des armes, dans le domaine militaire de pointe. Donc il y a des rapports avec Israël. Concrètement, les Égyptiens eux-mêmes, s'il y avait une chose sur laquelle ils s'entendaient avec Moubarak, en dépit de cette rhétorique anti-israélienne, c'était sur les accords de paix. Il n'y a pas un Égyptien à l'heure actuelle qui a envie d'aller faire la guerre pour défendre les Palestiniens. Les Palestiniens ne sont pas forcément très bien vus non plus en Égypte. Il n'y a pas cette solidarité arabe. Ils n'ont jamais été très bien accueillis. Les frères musulmans ont utilisé la cause palestinienne, qui était finalement aussi un moyen de protester contre le régime égyptien et contre la politique du régime égyptien à l'égard d'Israël. Après, imaginons les frères musulmans au pouvoir, ce serait très très compliqué pour eux de remettre en question les accords de Camp David. Ça impliquerait de reformater toutes les alliances économiques. Ce ne serait pas envisageable. On peut envisager par contre qu'il y ait une politique plus dure, peut-être moins conciliante, avec Israël.